La marche du monde, Valérie Nivelon.
Bienvenue dans votre émission consacrée chaque semaine aux femmes et aux hommes, acteurs et témoins de l'histoire du monde.
Ce n'est pas ces couturiers seulement qui a fait la Guinée. Ce sont ses compagnons. Il s'est retourné contre ses compagnons, contre ceux qui l'ont soutenu dès le début. Beaucoup de membres du Parti démocratique de Guinée sont dans des fosses communes. Beaucoup de personnes, de personnalités qui l'ont rallié. Keita Fodéba lui-même, il était un des hommes les plus prospères en France ici. Mais Sékou Touré a passé par son père pour qu'il rentre, pour mettre ses talents à la disposition de la Guinée. Et voilà comment il a fini.
La voix de Mamadou Bovoy Barry, dit Petit Barry, l'un des fondateurs de l'association des victimes du camp Boiro, où il a lui-même été interné de 1971 à 1978, un camp dont très peu de Guinéens sont sortis vivants. Petit Barry prend alors conscience de la face cachée de Sékou Touré, héros de son engagement pour l'indépendance et l'unité de l'Afrique. Diplômé de l'Institut des hautes études internationales de Genève, dont il revient dès 1964 pour se mettre au service de son pays et de sa révolution culturelle, repéré par la présidence, il dirige son bureau de presse, la radio de la Révolution et le journal Oroya. Au crépuscule de sa vie, Mamadou Bovoy Barry, dit Petit Barry, a décidé de parler. Grand témoin de la Guinée de Sékou Touré, il se confie au micro de RFI.
On nous avait donné l'ordre de diffuser uniquement de la musique guinéenne ou africaine. Parce qu'après l'indépendance, il y avait des bars et des dancing où on jouait de la musique occidentale.
Johnny Hallyday ?
Oui, c'est
Sylvie Vartan ?
Ces bars ont été fermés. Ces bars ont été fermés après quelque temps. Mais il faut dire que ça vient de loin. Parce que tout a commencé ici, à Paris. Il y avait un jeune homme qui s'appelait Keita Fodéba, à l'époque, qui était inscrit à la faculté de droit et qui a créé un ensemble musical de danse qui est devenu après le théâtre de Keita Fodéba. Il était avec un autre guitariste guinéen célèbre, Kanté Fasseli, et un Camerounais qui s'appelait Mwangé. Et en 1950, il a créé les ballets africains de Keita Fodéba.
La guitare de Kanté Fasseli au sein de l'ensemble Fodéba Fasseli Mwangé, formé en 1948 à Paris par Fodéba Keita, renommé les ballets africains de Keita Fodéba en 1950.
Le premier spectacle, je crois, a eu lieu au théâtre de l'Étoile, des Champs-Élysées. Et en 1954, même le président de la République française, René Coty, a assisté à une des représentations. Je crois que c'était pour les combattants d'Indochine, quelque chose comme ça. En tout cas, les critiques littéraires français, surtout les lettres françaises de l'époque, ont écrit beaucoup d'articles sur les ballets africains de Keita Fodéba. Et ils louaient cette spontanéité, ce naturel qui se dégageait du jeu des acteurs et des danseurs. Donc Keita Fodéba, c'est le premier à faire rayonner l'art et la culture africaine à travers le monde. Ça a commencé à Paris ici, et après il a fait le tour du monde. Il a même joué au théâtre Bolshoï à Moscou, naturellement, à Pékin, partout dans tous les pays du monde.
Petit Barry, pour le président Sékou Touré, c'était important de s'appuyer sur les talents de Fodéba et des ballets et théâtres de Guinée.
Exactement, parce que Fodéba Keita était un des rares Africains à l'époque. Il avait un appartement à Paris, rue de la Verrerie, pas loin de l'hôtel de ville. Donc quand Sékou Touré venait à Paris, surtout quand il a été élu député en 1956, il logeait chez Keita Fodéba. Et Fodéba l'invitait au concert qu'il donnait à Paris. Et c'est là que Sékou Touré a découvert, il était émerveillé. Et Fodéba lui a dit, tu sais, on peut faire la même chose en Guinée demain. On peut contribuer à la réhabilitation de la culture africaine et on peut mobiliser la population à travers cela. Donc c'est avec Fodéba qu'il a découvert l'importance de l'art et de la culture comme moyen de mobilisation.
Je pense que Sékou Touré avait le rapport double à la culture qu'avaient sans doute tous les gens de sa génération, qui étaient donc dans les colonies françaises.
Céline Potier, historienne, enseignante et docteur en histoire, maîtresse de conférences à l'université de Nantes.
C'est-à-dire qu'au tout début de sa carrière politique, il est décrit, notamment par son biographe André Lévin, comme un jeune homme qui aime bien s'habiller en costume trois pièces, donc à l'occidental, qui aime danser dans les nightclubs de Conakry, qui lit énormément. Hein. Il s'est formé par la lecture de manière autodidacte et qui donc puise à la culture occidentale, s'il faut l'appeler comme ça. Et puis, il est aussi guinéen, malinqué, donc il a baigné dans l'enfance, dans aussi cette culture mandingue, la musique des griots, etc. Donc ça, c'est sûr que c'est quelque chose dont il est aussi héritier. Je pense que le rapport de Sékou Touré à la culture va prendre une autre dimension au moment de l'indépendance et au moment de la construction d'une articulation entre culture et politique. Et donc là, vraiment, il va s'emparer de la culture comme d'un outil de décolonisation des esprits et de décolonisation de son pays.
Donc, la Guinée après l'indépendance, avec l'influence de Fodéba, c'est lui qui était le maître à penser.
Mamadou Barry, dit Petit Barry.
On a commencé à organiser des compétitions au niveau des comités, des sections, c'est-à-dire au niveau des arrondissements, des fédérations, des régions et au niveau national.
Et vous faites des festivals.
Voilà. Il y avait ce qu'on appelait la quinzaine artistique tous les ans et festival tous les deux ans. Donc, les compétitions, c'était à l'échelle de tout le pays, depuis les villages jusqu'à la ville, jusqu'au niveau national.
À l'échelle de chaque comité, section, il y a une troupe de théâtre, il y a un orchestre, il y a un ensemble folklorique. Et donc ces différentes troupes se rencontrent dans des compétitions au niveau régional puis national. À chaque fois, celui qui est lauréat du concours monte à l'échelon supérieur et finit, si vraiment la représentation est très bonne, finit par se produire à Conakry.
Céline Potier, historienne.
Ça a un effet très important de création de la cohésion nationale, puisque non seulement ces citoyens se sentent mis en valeur dans la représentation de leur culture, mais aussi ils vont rencontrer les cultures et les traditions des autres régions. Et Fodéba Keïta insiste sur un concept qui sera repris ensuite par le régime guinéen et par d'autres régimes africains, qui est celui d'authenticité. C'est-à-dire qu'il ne souhaite pas donner une image folklorique de l'Afrique, folklorique au sens où ça correspondrait à des stéréotypes extérieurs et européens. Il souhaite au contraire donner à voir le sens de la culture africaine en essayant d'être réaliste. Pour autant, Fodéba Keïta travaille la mise en scène à l'européenne de ces éléments traditionnels. L'existence de ces troupes, de ces orchestres, va servir de vitrine à la révolution à l'extérieur des frontières.
Au rendez-vous d'Alger, sur cette terre d'Afrique, porteuse millénaire de culture, nous ne ménagerons rien pour que nos travaux aboutissent au résultat que tous nous en attendons, en resserrant encore les liens profonds qui nous unissent.
23 juillet 1969. Le ministre de l'Information algérien, Mohamed Benyania, inaugure le premier festival culturel panafricain.
Merci à l'Algérie qui a accueilli ce premier festival. Nous savons, depuis que nous sommes là, les énormes sacrifices que le peuple algérien a consentis pour nous accueillir.
En invité vedette, le Sile Orchestra National de Guinée. Et j'aimerais savoir, Petit Barry, en 1969, alors que vous êtes justement directeur de la Voix de la Révolution, de sa diffusion internationale, quel souvenir vous gardez du festival panafricain d'Alger en 1969?
On était présents. Et la Guinée a même obtenu un prix. C'était la pièce de Émile Cissé, Et la nuit s'illumine. C'était un peu l'histoire du Parti démocratique, l'épopée du Parti démocratique de Guinée.
Voilà. Parti unique de la Révolution.
Voilà. C'était le Sénégal qui avait obtenu le premier prix avec une pièce de Cheikh Ndaw, un écrivain sénégalais, sur le roi du Djolof, le Bourba Djolof. Une très belle pièce qui avait eu la médaille d'or. Donc là, c'était intéressant vraiment de voir toute l'Afrique se retrouver à Alger, Festival panafricain des arts et de la culture.
Donc il y a tous ces liens, en effet, panafricains qui sont noués. Et
Céline Potier, historienne.
Un grand moment de ces liens panafricains, c'est la participation de la Guinée au Festival panafricain d'Alger en 1969, alors que la Guinée n'était pas présente au Festival de Dakar de 1966, en raison des désaccords entre Sékou Touré et Léopold Sédar Senghor. Et donc là, la Guinée va envoyer presque 400 participants guinéens. Et donc là, c'est une victoire politique pour Sékou Touré, de ce point de vue-là. Une victoire, un aboutissement de cette politique culturelle qui lui donne une aura au niveau international. Et c'est aussi, je crois, un accomplissement pour les artistes guinéens qui, à ce moment-là, peuvent donner une visibilité internationale à leur travail et puis s'affirmer comme des artistes dans un monde global.
Vous êtes bien sur RFI à l'écoute de Sorikandia Kouyaté, le plus grand de tous les griots de la Guinée, médaillé d'honneur du Festival panafricain d'Alger en 1969 et grand prix de l'Académie Charles Cros en 1970. Il est aussi la voix de la révolution culturelle de Sékou Touré. À la fin des années 60, Mamadou Barry, dit Petit Barry, est nommé directeur de la radio La Voix de la Révolution, sur laquelle sont diffusés les discours de Sékou Touré, mais aussi les musiques guinéennes et les productions culturelles authentiques d'une nouvelle nation libérée du joug colonial en pleine construction nationale. Petit Barry est le chef du bureau de presse de Sékou Touré et il coordonne tous les médias d'État, vecteur de la révolution et du nationalisme culturel.
Quand j'ai été nommé au ministère de l'Information en 67, en 1968, j'ai été nommé directeur du bureau de presse.
De la présidence.
De la présidence. Alors j'ai dit au président, bon, j'ai mon adjoint, il s'appelait Mourou Baldé, il va prendre ma place à la radio. Il m'a dit non, tu gardes les deux postes. Il dit, c'est lié. Il dit la radio, le bureau de presse, Oroya, l'agence de presse, l'imprimerie, l'institut de recherche et de documentation. Tout cela, c'est toi qui vas coordonner toutes les activités à partir du bureau de presse.
Et donc, à partir aussi d'un dialogue permanent avec la présidence.
Naturellement.
Au quotidien.
Au quotidien, pratiquement.
Petit Barry, les auteurs et les acteurs sont surveillés par les renseignements. Les rapports sont faits au président Sékou Touré. Et ensuite, on vous demande dans Oroya, le journal, de faire des comptes rendus de ces pièces de théâtre.
Les pièces de théâtre, en général, c'est après les compétitions artistiques, les quinzaines artistiques ou les festivals. Une fois, il a réuni les cadres de l'information, la radio, Silly Cinéma, et puis nous dit qu'il faut enregistrer toutes les pièces de théâtre. Il y a 33 ou 35 fédérations. Alors nous lui avons dit, non, président, c'est pas possible. On n'aura pas assez de pellicules pour enregistrer toutes les pièces de théâtre. Il y en a qui font 3 heures. Il dit, je vais vous mettre au pas. On lui dit, mais c'est pas possible, président. Alors nous vous proposons de choisir 2 ou 3 ou 4 pièces. On va réécrire sous forme de scénario et on va en faire des films. Non, ce qu'il a dit, c'est ce qui doit se faire. Comme il n'y a pas de pellicule, on n'a pas assez d'argent pour acheter toutes ces pellicules, rien n'a été fait. Mais il a maintenu sa menace de nous mettre au pas. Il n'aimait pas qu'on discute ses ordres.
Et effectivement, jouer devant Sékou Touré à Conakry, pour ses troupes de jeunes hommes et de jeunes femmes, c'était particulièrement stressant et éprouvant aussi, enthousiasmant.
Et Lara Berthaud, chargée de recherche en littérature au CNRS, au sein du laboratoire Les Afriques dans le monde.
Et Sékou Touré voulait absolument tout contrôler, notamment les émotions de la scène. Il ne fallait pas rire à un moment où, par exemple, le pouvoir pouvait être mis en difficulté et il ne fallait pas trop bien jouer le traître. Il y a des exemples notamment de colère de Sékou Touré lorsqu'un traître est trop bien joué et la salle rit au mauvais moment. Donc il y a ce souvenir très fort de la volonté de Sékou Touré de tout contrôler lors de ces festivals. Et en même temps, ces festivals sont des formidables moments d'ébullition intellectuelle, artistique et aussi de fête. Conakry était en fête, les jeunes allaient au théâtre et beaucoup de gens se souviennent de beaucoup de titres. Et donc chaque année étaient jouées à Conakry les meilleures pièces de tout le pays qui traitaient de l'exode rural, de la spéculation, de l'alphabétisation en langue en malinké, en soso, et aussi de l'histoire régionale, guinéenne ou panafricaine. Il y a des pièces notamment sur Soweto, il y a des pièces sur le PAIGC, les mouvements de libération de Guinée-Bissau qui trouve refuge en Guinée, et puis des pièces sur Samori Touré, sur Alpha Yaya Diallo, sur Mbaya Camara. Tout un répertoire très très riche qui vient se produire à Conakry.
Petit Barry se souvient très bien du prix obtenu par Émile Cissé à Alger en 1969 pour sa pièce « Et la nuit s'illumine ». Alors, qui est Émile Cissé? Est-ce qu'il est un artiste de théâtre au service du pouvoir, ou bien Émile Cissé est-il un cadre du parti qui doit utiliser le théâtre au service de la Révolution?
Alors Émile Cissé est un personnage. C'est l'une des plumes les plus célébrées par le régime. C'est en fait un ancien élève de l'école normale William Ponty et il a été un des plus proches conseillers de Sékou Touré. C'est un métis guinéo-libanais. Il est l'auteur d'un petit texte, Farah la cour, roman d'un petit village africain. Assiatou de septembre aussi, c'est un autre texte qu'il a écrit. Et à côté de ces textes, il règne dans la région de l'abbé, et il sème véritablement la terreur. C'est l'oreille de Sékou Touré, un coup de téléphone d'Émile Cissé peut faire enfermer une ou plusieurs personnes. Il dirige une troupe de femmes qui sont plus ou moins des Amazones armées à son service, qui sèment véritablement la terreur à l'abbé. C'est un homme d'une cruauté extrême dont les gens se souviennent avec forte émotion. Et avec cette pièce, Et la nuit s'illumine, qui a eu un succès énorme, et que la troupe nationale va reprendre. Donc après la troupe de l'abbé, ça monte à l'échelon supérieur, donc ça intègre le répertoire du ballet national, qui le rejoue et qui ensuite est diffusé en 69, qui est exporté en 69 au festival panafricain d'Alger, où cette pièce représente la Guinée. Et donc cette pièce raconte l'épopée du PDG, comme d'autres chansons de l'époque, comme le Bembeya Jazz National, par exemple, peuvent aussi raconter cette épopée du PDG. Et donc, c'est l'expression théâtrale, si vous voulez, d'un peuple en lutte, incarné par le jeune Sékou Ba, le jeune Sékou, qui va résister à l'oppression coloniale, dénoncer l'exploitation des petits paysans, prendre fait et cause pour un peuple qu'il va mener vers la liberté. C'est ça que raconte cette pièce.
La Guinée a beaucoup investi pour la formation des cadres.
Mamadou Barry dit Petit Barry.
On a envoyé, après l'indépendance, des jeunes Guinéens dans tous les pays du monde, à l'Institut des hautes études cinématographiques de Moscou, un des plus grands instituts du monde. On a formé un jeune homme brillant comme Costa Diagne, qui était avec nous en prison. D'autres qui ont été envoyés en Yougoslavie, parce que Sékou Touré avait de très bons rapports avec Tito, le président Tito. Il donnait des bourses, il aidait beaucoup la Guinée. C'est Koumar Barry qui a fait « Évain la liberté » avec moi, dont je suis la voix. Je travaillais comme scénariste pour beaucoup de ces réalisateurs guinéens. Et par exemple, le film sur la quinzaine artistique qui a été faite par Moussa Kemoko Diakité, qui s'appelle « Hirde Diama », c'est-à-dire la veillée populaire en Poular. Je travaillais en étroite collaboration avec les différents réalisateurs.
Le contexte de production des œuvres se fait sous contrôle politique.
Céline Potier, historienne.
Il y aura un contrôle qui peut être direct, puisque Sékou Touré lui-même peut intervenir sur le scénario et même parfois rajoute des phrases. Il peut même, une fois que le film est réalisé, demander au réalisateur et au scénariste, ça a été le cas pour Évain la liberté, donc pour Sékou Marbari et Petit Barry, demander de modifier le film.
Dans quel sens ?
Eh bien, de retourner en Pologne où s'est effectué le montage et de supprimer des personnalités qui apparaissent à l'écran, par exemple.
Pour quelle raison ?
Parce que ces personnalités, entre-temps, ont été arrêtées et donc sont considérées comme des personnes qu'il faut oublier.
Évain la liberté, alors, si on le pitch, comme on dit aujourd'hui ?
Alors, Évain la liberté raconte l'histoire de l'indépendance de la Guinée avec des premières images qui rappellent l'oppression coloniale qu'a subie ce pays à travers la traite et la colonisation. Puis, le morceau de bravoure du film, c'est vraiment le récit de la mobilisation de la population par le Parti démocratique de Guinée et qui met en avant la figure de Sékou Touré, hein, et presque uniquement cette figure-là. Il n'est pas mentionné, par exemple, le premier secrétaire général du PDG, Madeira Keïta. Donc, Sékou Touré est vraiment la personne qui est mise en avant dans le film. Puis, après l'indépendance de la Guinée, le film raconte et glorifie les acquis et les réalisations de la Révolution. À la fois les connexions nouvelles nouées par la Guinée avec l'ensemble des pays du monde et aussi ses réalisations sur le plan culturel.
La Guinée, 4 millions d'habitants, 248 000 km², des frontières sinueuses empiriquement tracées au gré des conquêtes coloniales.
Petit Barry, vous avez contribué au film « Évain la liberté ». Pourquoi ce film est si important dans l'écriture de l'histoire de la Guinée par Sékou Touré ? Qu'est-ce qu'il raconte ?
Ce film a été réalisé en 1968. C'était au 10e anniversaire de l'indépendance de la Guinée. Et le 10e anniversaire correspondait aussi à un autre événement important, le retour des restes mortels de Samori Touré, qui a été exilé au Gabon, dans l'île de Logoué, où il est mort en 1900, et puis Alpha Yaya Diallo, qui avait été exilé une première fois au Dahomey, et une deuxième fois en Mauritanie, où il est mort aussi. Donc, Sékou Touré avait décidé, le gouvernement guinéen avait décidé, de ramener en terre guinéenne les restes mortels de cet héros. Alors ça a été une grande cérémonie. Ils ont fait le tour de toutes les régions de la Guinée, accompagnés de leurs descendants. Mon ministre de l'Information, Alpha Amadou Diallo, c'est un neveu de Alpha Yaya, par exemple. Et puis il y avait des autres comme Siaka Touré, qui sont des descendants de Samori Touré. Et ceux-ci accompagnaient aussi les restes de leurs ancêtres. Donc le film « Évain la liberté » a été créé en ce moment. C'est comme le regard sur le passé de Bembe Yajaz. C'était à l'occasion du retour de Samori Touré.
Écoutez, écoutez, fils d'Afrique, écoutez, ma d'Afrique. Écoutez aussi, jeunes d'Afrique, espoir de demain. Écoutez tous une page de la glorieuse histoire africaine. Il est des hommes qui, bien que physiquement absents, continuent et continueront à vivre éternellement dans le cœur de leurs semblables. Sont de ceux-là l'Alma Missa Mori Touré, empereur du Wassoulou, le roi de l'abbé l'illustre Alpha Yaya Diallo et Morifindian Diabaté, symbole de l'amitié, dont les restes glorieux viennent de rejoindre la terre natale qu'ils ont aimée et défendue leur vie durant.
Le chemin du PDG, la loi cadre du 8 novembre 1964, Sékou Touré, autant de textes dits en français, mais aussi en malinké, et Lara Berthaud, c'est l'album mythique Regard vers le passé, du non moins mythique Bembeya Jazz, entre vos oreilles. Qu'est-ce que vous entendez en tant qu'historienne lorsque vous entendez le Bembeya ?
C'est un groupe mythique et c'est un album mythique. Ce sont deux chansons qui durent chacune plus d'une demi-heure, qui alternent entre des fragments psalmodiés en français et du chant en malinké et en soussou, qui viennent reprendre légèrement différemment la voix du chanteur. Et donc ça raconte à la fois la résistance guinéenne à la colonisation, avec l'épopée de Samori Touré et des mentions d'autres résistants comme Alpha Yaya Diallo, et l'épopée de l'indépendance avec Ahmed Sékou Touré, digne descendant de Samori Touré, et l'émergence du Parti démocratique de Guinée.
Depuis 1964, de conférences de cadre en Conseil national de la Révolution, le succès a guidé les pas du Parti démocratique de Guinée jusqu'au grand 8e congrès qui radicalisa la révolution et éleva le secrétaire général au rang de responsable suprême de la révolution.
Et donc là, on entend par exemple en français un éloge du Parti démocratique de Guinée et en malinké une reprise de ce même texte disant que la loi cadre est bonne pour nous, elle est là pour faire travailler la justice, pour nous faire travailler, nous, peuple de Guinée.
Et la Guinée, partout, livrera au monde de l'exploitation le combat de la réhabilitation, car les militants Sili solidairement sont décidés à la défendre fermement.
Si la musique participe à la décolonisation des esprits, quel est le narratif proposé par Sékou Touré et Lara Berthaud ?
Il s'agit de trouver des figures positives, capables d'incarner la Guinée indépendante. Donc Samori Touré, Alpha Yaya Diallo, des figures féminines aussi, Mafori Bangoura, Mbalia Kamara, des figures de militantes sont promu dans ses chansons. Le Nyandan Jazz, l'orchestre de Kissidougou, chaque région avait son orchestre et à l'intérieur de Conakry, il y avait plusieurs orchestres également par quartier. Et tous ces orchestres, au niveau de Conakry et au niveau national, sont chargés de diffuser ces nouveaux récits ou ces récits décolonisés, défalsifiés, afin de produire un discours national, indépendant, décolonisé, en français, et aussi en malinké, en soussou, en kissi. Et cette désaliénation par la langue est très novatrice à l'échelle de la sous-région, c'est-à-dire qu'il ne faut plus seulement parler en français, mais le théâtre, la musique, le cinéma sont des arts qui peuvent toucher le peuple aussi parce qu'ils parlent directement dans les langues du peuple.
Petit Barry, pourquoi la figure de Samori Touré est tellement importante dans la propagande de la révolution guinéenne ?
Sékou Touré a décidé qu'il a une filiation et qu'il est le petit-fils de Samori Touré. Je me souviens, une fois, j'étais à Farana. Farana, c'est la ville natale du président. J'étais avec mon ministre, Dr Diallo Alpha Amadou, et nous avons rencontré un vieux de Farana et je voulais qu'il me parle un peu du président. J'étais curieux de savoir. Je dis, je suis chez lui, il est né ici, j'aimerais savoir. Alors ce vieux me dit, moi, je faisais du commerce. J'allais au Foutal Jalon, j'achetais des bœufs au Foutal Jalon Et puis, quand j'amenais ces bœufs ici, je donnais une partie au père du président qui était boucher, Alpha. Il s'appelait Alpha Touré. C'est lui le père présumé de Sékou Touré. Alors, quand nous sommes sortis, après la discussion avec ce vieux, mon ministre m'a dit, il ne faut jamais parler du père de Sékou Touré. Dans tes écrits, il ne faut pas en parler. Si tu parles de ses parents, il faut faire référence seulement à Samori. Sinon, il va t'arriver des ennuis.
Et pour quelle raison, pour nos auditeurs qui ne sont pas guinéens, la figure de Samori Touré est tellement importante? Qu'est-ce qu'elle représente dans l'histoire?
Parce que Samori Touré, ça a été celui qui a le plus résisté à la pénétration étrangère. Pendant 17 ans, pratiquement, il a lutté en Haute-Guinée, dans une partie du Mali et en Haute-Côte d'Ivoire. Dans toutes ces régions, il a lutté contre la pénétration étrangère jusqu'en 1898. Et ce qui est étonnant, c'est qu'il a été arrêté le 29 septembre 1898 par le capitaine Gourou. Et la Guinée a voté au référendum le 28 septembre. Alors c'est comme un signe du destin. Et tout le monde parlait de ça. Donc 60 ans, jour pour jour, la Guinée a obtenu son indépendance sous la direction du petit-fils de ce même Almami Samori Touré. C'est ce qu'on dit dans Bembe Ajaz, le regard sur le passé.
Ils ne sont pas morts, ces héros, et ils ne mourront pas. Après eux, d'audacieux pionniers reprirent la lutte de libération nationale qui finalement triompha sous la direction d'Ahmed Sékou Touré, petit-fils de ce même Almami Samori. Le 29 septembre 1958, la révolution triompha, nous vengeant définitivement de cet autre 29 septembre 1898, date de l'arrestation de l'empereur du Wassoulou, l'Almami Samori Touré.
Mamadou Barry dit Petit Barry, vous êtes un des fils de la Guinée indépendante, vous êtes l'un de ceux qui ont cru à la construction nationale et panafricaine de votre pays, la Guinée, avec Samori Touré, cette figure anticolonialiste, panafricaine, qui représente justement le héros de la nation dont Sékou Touré se réclame.
Oui.
Donc le message est clair, l'ennemi, ce sont les autres, sauf que, au fur et à mesure, l'ennemi devient les autres Guinéens.
Ouais.
Qu'est-ce qui se passe? Comment cette évolution se traduit-elle à la radio? Qu'est-ce que vous observez autour de vous? Et qu'est-ce qui change dans les messages que vous diffusez sur cette radio?
C'est difficile, une question difficile, parce que on reçoit des instructions sur ce qu'on doit diffuser ou ce qu'on ne doit pas diffuser. Et on n'est pas libre entièrement de faire ce qu'on veut. Il y a une espèce d'autocensure que nous exerçons sur nous-mêmes. Au début, on a cru qu'on pouvait vraiment innover, on pouvait de l'intérieur essayer d'améliorer le système, mais on s'est rendu compte que cela était difficile. Et au fur et à mesure que le pays rencontrait des difficultés, surtout au plan économique, il fallait trouver les coupables. Donc, qui est responsable des échecs économiques? Vous savez, dans les dictatures, le dictateur n'est jamais coupable, c'est les autres. Un jour, dans le courrier, je reçois une lettre de Aimé Césaire, une carte postale. Aimé Césaire, c'était en 1969. C'était après le complot des officiers. Fodéba Keïta avait été arrêté. Et ça a choqué Aimé Césaire, l'arrestation de Fodéba.
Le directeur des ballets et théâtres guinéens.
Voilà. Il a écrit une carte postale à Sékou Touré, mais il n'a pas mis dans une enveloppe. Il a mis juste Sékou Touré, président de la République de Guinée-Conakry. Donc, j'ai lu la carte et dans ma folle inconscience, je vais la montrer à Sékou Touré, je lui dis, qu'est-ce qu'on va répondre à Césaire? Quand il a lu la carte, il a froncé les sourcils, on sentait Vous savez, il a des petits yeux qui sont enfoncés dans l'orbite. En ce moment, il devient un peu terrifiant. Il n'était pas content. Il m'a dit, envoie-lui un livre blanc. Le livre blanc, c'est le livre dans lequel on publie les dépositions des gens qui sont arrêtés.
Est-ce que c'est un message de menace?
Exactement. Et après cela, on ne m'envoyait plus le courrier. Je commençais à en savoir un peu trop.
Lorsque Aimé Césaire écrit à Sékou Touré, c'est en réaction à l'arrestation de Fodéba Keïta, plusieurs fois ministre sous Sékou Touré et Lara Berthaud, mais jamais ministre de la Culture.
Oui, c'est surprenant de voir un homme qui a dédié toute sa vie au montage, à la création des ballets nationaux guinéens, qui a ensuite offert ses ballets à la Guinée, parce qu'au départ, il les a fondés à Paris, il a eu une aura internationale depuis Paris, mais ensuite, il se met vraiment au service de la nation. Fodéba Keïta n'a jamais été ministre de la Culture. Il a participé à la répression politique de manière très forte également. Mais lui, qui a été l'homme du pouvoir, l'homme très proche de Sékou Touré, n'est pas à l'abri de la répression. Et en février 1969, il est arrêté avec des officiers de haut rang. Des sentences très lourdes sont prononcées contre les politiciens véreux. Et ils sont accusés par Émile Cissé d'avoir manipulé les militaires. Et donc, la chute de Fodéba Keïta, l'homme des ballets africains, a provoqué un émoi international, jusqu'à Aimé Césaire qui réagit, mais également à l'intérieur de la Guinée. Et cela se retransmet de manière quasi immédiate dans les pièces de théâtre. On peut retrouver des échos de cette affaire, de ce grand complot qui a secoué la vie politique guinéenne, où même les plus proches de Sékou Touré peuvent tomber. Et donc, par exemple, on voit une pièce de théâtre intitulée Daoulen Karamoko sur le plus proche de Samori Touré, le propre fils de Samori Touré, accusé de traîtrise. Et cette trahison de Daoulen Karamoko raconte en réalité comment même les plus proches des hommes de pouvoir ne sont pas à l'abri des chutes absolument terribles comme celle de Fodéba Keïta.
Je voulais insister sur quelque chose d'important, c'est le fameux complot de 1969.
Mamadou Barry, dit Petit Barry.
Parce qu'il est la suite de quelque chose de très important. Vous savez, en 1965, Ben Bella est renversé par Boumediene en Algérie. Ben Bella était très proche de Sékou Touré. Il a eu un choc. Et en 1966, c'est Kwame Nkrumah qui est renversé par une junte ghanéenne. Et après, en 68, c'est Modibo Keïta, le président du Mali, qui est renversé par Moussa Traoré, le lieutenant Moussa Traoré. Alors après, Sékou Touré a eu peur. Tout le monde disait, après le Ghana, c'est le Mali, et après le Mali, c'est la Guinée. Et tout le monde disait, qu'est-ce que les militaires guinéens attendent pour agir? Et Sékou Touré a fait un meeting pour dire, il n'y aura jamais de coup d'État en Guinée. Il a fait une liste de tous ceux qui sont susceptibles de faire un coup d'État, les officiers, les sous-officiers, les cadres, et puis il les a fait arrêter. Il a créé un complot de toutes pièces.
Et vous diffusez toutes ces informations à la radio?
À la radio, c'est tout de suite diffusé.
À partir de quel moment cette purge interne, c'est-à-dire que les ennemis ne sont plus à l'extérieur, ils sont à l'intérieur, à partir de quel moment ça s'entend à la radio que vous dirigez?
À partir de 1970. 69, ça c'est la purge de l'armée. L'arrestation de Kamandjabi, du colonel Kamandjabi, des officiers de l'armée, des anciens dirigeants comme Barry Diawadou, etc. Et ça, c'est diffusé en direct. C'est-à-dire, quand il y a une condamnation, elle est publique, elle est diffusée en direct.
À la radio.
À la radio, ouais. Quand les arrestations ont commencé à être massives, ils ont lancé l'idée que si vous entendez votre nom à la radio, le comité du parti va vous arrêter et vous déposer au Kambouarou.
Et les gens apprennent à la radio?
À la radio. Ils apprennent à la radio.
Leur arrestation?
Oui, souvent, ça c'est en 70 qu'ils ont introduit ce système.
C'est-à-dire?
En disant que c'est le peuple qui arrête.
Et vous êtes encore directeur de la radio à ce moment-là?
Oui, j'étais encore directeur de la radio jusqu'au mois de juin. Et au mois de juin, le 13 juin 1971, il y a deux meetings qui se tiennent à Conakry. À Conakry 1 et à Conakry 2, c'est-à-dire à Kaloum et dans la banlieue. L'un est dirigé par Ismaël Touré, le frère du président, président du comité révolutionnaire, et le second par Mamadi Keïta, un des beaux-frères du président, par alliance. Alors, j'envoie des journalistes pour suivre les deux meetings et enregistrer des déclarations. Et moi-même, je fais un tour et ce que j'entends dépasse l'imagination. Violent. J'ai jamais entendu des propos aussi violents. Est-ce que vous voulez qu'on arrête tous les suspects ? Oui, qu'est-ce que vous attendez ? La population, les militants tapent sur la table, au poteau les traîtres, etc. J'ai dit aux journalistes de ne pas diffuser. Je vais voir le président. Je vais lui dire que les propos que j'ai entendus sont d'une telle violence, j'ai décidé de ne pas les diffuser avant d'avoir son autorisation. Donc, je vais à la présidence ce jour-là et je trouve un monde fou. C'était ce qu'on appelait le haut commandement, la salle du haut commandement qui est juste attenante à son bureau, du président Sékou Touré. Il m'a aperçu et il traverse toute la salle pour venir vers moi. Il me regarde en face et puis il me dit « Est-ce que tu crois en Dieu ?» Je n'ai pas répondu parce que « Qu'est-ce que Dieu a à voir ?» Je rencontre le président régulièrement, on ne parle pas de Dieu. Et puis il pose la seconde, une seconde fois la question « Est-ce que tu crois en Dieu ?» Alors je lui dis « Oui, je crois en Dieu. » Et puis il me serre la main, longtemps comme ça. Et puis il tourne le dos, il s'en va, son bureau. La même nuit, j'ai été arrêté. La même nuit, j'ai été arrêté et déposé. C'était donc le 14 juin, puisque c'était après minuit. J'ai été arrêté au nom de la Révolution et déposé au Camboiro.
Dans son récit témoignage intitulé « Camboiro, 7 ans sous le mont Gangan », Petit Barry détaille par le menu la façon dont procède le pouvoir guinéen. À l'arrestation doit succéder la déposition. Et c'est Émile Cissé, chef politique et bras armé de Sékou Touré, qui en est chargé personnellement.
Les aveux, pour les obtenir, ce n'est pas facile. Parce qu'on vous dit de vous accuser vous-même et d'accuser les autres. Donc, vous refusez. Je refuse. Il y a les gendarmes qui sont là. Eux, ils sont chargés de vous faire avouer. Ils m'ont dit, ici, on ne vous demande pas d'être intelligent, on vous demande d'avouer, de reconnaître les crimes qui vous sont reprochés. Ils menacent, et puis après survient le chef politique, ça c'est Émile Cissé, qui leur dit d'arrêter, on ne doit pas torturer un cadre comme Petit Barry, le président tient beaucoup à lui, et le lendemain, je reçois une note du président. Ah, Petit Barry, il paraît que tu ne veux pas collaborer avec la commission. Je te demande de tout dire, tout ce qu'on te demande, il faut le dire.
Ça, ce sont les mots de Sékou Touré.
Du président, je me souviens de chaque mot.
Écrit.
Ne crains rien, il ne t'arrivera rien. Je te tirerai de ce mauvais pas. Mais il faut aider la révolution. Il faut aider la révolution. Donc c'est ainsi que finalement... Avec Émile Cissé, on négocie pour écrire un texte. Il me dit, toi, ce n'est pas une déposition, c'est une lettre. C'est une lettre que tu écris au président. Si je n'accepte pas de répondre à son invitation, il ne va plus me protéger, il va me laisser entre les mains des gendarmes et des autres qui veulent ma mort. Une fois qu'il a obtenu ma déposition, Émile Cissé a disparu.
Est-ce que, Petit Barry, votre déposition est diffusée à la radio ?
Elle est diffusée, elle est même publiée. Je l'ai même lue à ma sortie de prison. J'ai un numéro de Oroya dans lequel il a été publié la déposition du sinistre, du traître Mamadou Barry, dit Petit Barry, qui s'est infiltré dans les rangs de la Révolution, mais qui a été démasqué.
Quel est pour vous la morale de cette histoire? En tant qu'ancien directeur de la Voix de la Révolution, vous vous retrouvez à votre tour à avoir votre propre autocritique diffusée sur votre radio.
Oui. Ça prouve qu'il faut tout faire pour ne pas vivre dans un système totalitaire. Je demanderai aux jeunes de lutter pour l'avènement de la démocratie dans leur pays, où l'alternance est possible, sans effusion de sang, où les voix contradictoires peuvent s'exprimer sans que les gens soient arrêtés. Donc, il faut tourner la page du passé. Le système sékoutouréen qui perdure encore, le système qui existe encore en Guinée et qui a été admiré par beaucoup, doit cesser d'exister. Et j'aimerais qu'un jour, toutes les sentences injustes qui ont été prononcées contre nos compagnons soient annulées, qu'un état de droit puisse exister dans nos pays et qu'on puisse construire la grande Afrique dont nous rêvons et dont on parle dans l'hymne national guinéen. C'est ça que j'aimerais qu'il arrive. Et l'association des victimes du camp Boirou, dont je suis membre fondateur, cette association lutte pour précisément la réhabilitation de toutes les victimes et pour qu'on puisse tourner les pages du passé, que les gens puissent faire le deuil de leur famille. Jusqu'à présent, beaucoup de gens ne savent pas où sont enterrés leurs parents. Et on parle de 50 000 ou de 80 000 personnes qui ont disparu. On ne saura jamais le nombre exact de personnes. Mais nous savons une chose, c'est que ce sont les pères fondateurs de la Guinée qui sont dans les fosses communes.
Ainsi s'achève ce second épisode consacré à Petit Barry, grand témoin de la Guinée de Sékou Touré. Un documentaire signé Valérie Nivelon et réalisé par Sophie Jeannin avec les archives de RFI et de l'INA. Plus d'infos sur notre page La Marche du Monde sur Internet. Vous retrouverez les livres de Petit Barry et Lara Berthaud et Céline Potier que je remercie vivement. N'hésitez pas à réagir, exprimez-vous, podcaster, réécouter le premier épisode. Cette émission, c'est la vôtre. I'm gonna go to the hospital.